De retour à CKGN, la voix de chez nous, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir le directeur général de la ville de Kapuskasing, Guylain Barry. Guylain Barry, bonjour.
Bonjour Charles.
J'aimerais d'abord vous parler des projets d'énergie solaire à Cobalt et Englehart que vous avez déjà parlé, discuté un peu avec Radio-Canada, qui sont menés en partenariat avec Énergie Kapuskasing. Qu'est-ce qui explique que ces projets-là ne sont pas encore considérés comme rentables depuis leur création il y a maintenant 6 ans?
Alors, c'est une bonne question. Ça a été une aventure périlleuse pour ce qui en est des projets solaires à la ville de Kapuskasing pour quelques différentes raisons. Et puis, je les résume sous trois raisons principales. La première, c'est le financement. Donc, on savait au tout départ que ces projets-là coûteraient cher. En tout, le portfolio est de 38 millions de dollars pour tous les projets qu'on a de construits un peu partout dans la province. Et puis, on savait que ça coûterait de l'argent. Et puis, on avait comme plan d'aller emprunter cet argent-là pour payer pour la construction. Et ensuite, les prêts seraient remboursés avec les revenus des panneaux solaires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sauf que le processus pour aller chercher ce financement-là était beaucoup plus long que prévu. Et puis, finalement, ça n'a pas été avec les mêmes firmes de financement qu'on avait initialement envisagé. Donc, ça a créé des retards. Donc, ça a été un des problèmes. Le deuxième problème, ça a été que la compagnie avec laquelle on faisait affaire pour la construction de plusieurs de ces champs solaires-là, avec nos partenaires municipaux, a fait banqueroute à un moment donné. Et puis ça nous a laissé dans l'embarras. On a dû ramasser les pots cassés là, sur les projets qui étaient en marche à ce moment-là et puis terminer les projets avec d'autres compagnies. Donc, il y a eu peut-être des pertes aussi associées à ça, mais ça a été surtout encore là des délais. Et puis, ça nous a retardé dans la production. Je veux juste faire un petit accolade à ce moment-ci puis dire que les contrats qu'on avait décrochés pour les panneaux solaires, c'est toujours des contrats de 20 ans. Mm-hmm. Mais si on prend plus de temps pour les débuter au début, là, c'est qu'on va manger dans les 20 ans du contrat, donc la rentabilité réduit du moment où est-ce qu'on est en retard. Ensuite, la troisième raison qui est un peu plus récente, celle-là, là, on vient de découvrir plus récemment, c'est-à-dire que il y a plusieurs des panneaux solaires qui ont été installés. Les milliers de panneaux solaires sont défectueux. Et puis, ça veut dire qu'ils produisent un peu moins qu'on envisageait. Et puis, ce un peu moins-là, là, ça représente les marges de profit qui auraient dû être réalisées sur certains de ces champs solaires-là. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que là, en corrigeant ces panneaux-là, donc le fournisseur va nous en donner d'autres qu'on va remplacer. À ce moment-là, on va pouvoir avoir une augmentation de la production solaire et on devrait aller chercher des profits sur ces projets-là qui sont en ce moment, on dit en anglais « break-even ». Donc, on vient à bout de payer aux dépenses. Il n'y a pas de perte, mais on ne fait pas les profits qu'on anticipait réaliser à ce jour.
Et à part remplacer ces panneaux-là défectueux avant la garantie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la situation qui est actuelle?
On fait des améliorations sur chacun des sites. Ça se passe tout le temps. On a une compagnie avec qui on fait affaire, Vision 9, qui est un partenaire dans ces projets-là très, très important, et puis qui fait de l'entretien. L'entretien qui, au tout départ, n'était pas fait. Puis on voyait là, des fois, là, puis même les passants sur la route, là, des fois, on va voir un champ solaire où il y a un panneau qui pointe dans la mauvaise direction, par exemple.
Oui.
C'est parce que ce panneau-là, ce panneau-là ne produira certainement pas la même chose que ceux qui pointent dans la bonne direction, dans la direction du soleil. Donc, ce genre d'entretien-là, de s'assurer que tous les panneaux pointent dans la bonne direction, on fait ça de façon beaucoup plus régulière depuis qu'on a arrêté de construire des champs. Donc, le focus au tout départ était de construire ces projets-là. Mais là, on est vraiment dans le mode d'entretien et puis d'efficacité. Donc, on vient chercher là des pourcentages d'efficacité sur chacun des projets. Et puis, pour certains d'entre eux, ça a fait une grosse différence. Donc, à part de changer les panneaux, on s'en occupe, je dirais.
J'aimerais passer maintenant à quelques nouvelles qui sont sorties lors du conseil municipal de lundi. D'abord, les réparations qui vont être effectuées à la façade nord de l'aréna prochainement. Pouvez-vous d'abord nous expliquer d'abord en quoi consistent ces travaux-là en ce moment?
Oui, ça c'est un projet là, qui date, je pense, de 2012, où il y avait eu une observation à l'intérieur de l'aréna, le long du mur nord, derrière le banc des joueurs, là. On voyait le ciment se séparer, donc on était rendu avec une craque d'à peu près 1,5 pouce de large, et puis on voyait que la structure s'éloignait du côté nord. Donc on avait à ce moment-là engagé une firme d'ingénieurs qui nous avait appris que la solution était d'aller ancrer cette structure-là au sol avec plus de ciment, des grosses formes et puis beaucoup de ciment. Un projet qui nous avait coûté assez cher, mais depuis 2012, on a fait une réévaluation de cette fameuse fissure-là. Et puis, on s'aperçoit que ça n'a pas bougé beaucoup. Et puis, on a fait un peu d'excavation cette année pour aller voir ce que ça avait de l'air sous le sol. Et puis, c'est moins pire qu'on pensait. Et puis, la firme d'ingénieurs qu'on a utilisée pour faire l'analyse cette fois-ci nous dit que peut-être tout simplement en relocalisant la route, il y a une route le long du mur nord de l'aréna pour question de prévention ou de protection pour les feux. Cette route-là, on va essayer de l'éloigner du mur de 5 à 6 pieds pour que la gelée ne vienne pas affecter la fondation autant qu'elle le fait en ce moment. On va aussi installer du styrofoam pour aider à ce que la gelée n'aille pas déranger les fondations. Et puis, ça devrait être tout ce qu'on a à faire pour que le mur préserve son intégrité.
Donc, on parle, si je comprends bien ce que vous dites, c'est on parle vraiment des petits travaux de maintenance, c'est bien ça?
C'est ça, c'est des travaux un peu plus que des travaux de maintenance, mais des travaux mineurs, je dirais. Puis c'est probablement même des travaux qu'on peut faire nous-mêmes ici à la municipalité, là, avec l'embauche de peut-être un sous-traitant, là, mais c'est pas des travaux majeurs comme on anticipait après la première revue en 2012.
Parfait. Et du côté de l'aéroport, encore une fois, des travaux par rapport au toit de l'aéroport, qu'est-ce qui est prévu à ce sujet au niveau des réparations?
L'aéroport, c'est un remplacement de la toiture du garage. Donc, un garage là pour l'aéroport, pour l'entretien des équipements là, utilisés pour le déneigement et puis tout aspect là, à l'aéroport. Donc, ce garage-là est très important pour la survie de notre aéroport. On en a besoin pour entreposer, pour entretenir ces équipements-là. Et puis, on voit que la couverture, la toiture coule quand même depuis quelques années, mais là, on est au point où on doit se payer un recouvrement complet. Et puis, ça avait été mis au budget pour l'année 2020. Sauf que les prix qui sont revenus là, des soumissions sont un peu plus élevés que ce qu'on avait mis au budget. Donc, c'est pour ça que c'est revenu au conseil lundi pour approuver les dépenses additionnelles là, d'une trentaine de mille $, si je me rappelle bien.
Concernant le rapport sur la consommation d'énergie de Kapuskasing, discuté brièvement lundi aussi, quels étaient les objectifs établis en 2014 au début du plan, si je comprends bien, et où en est rendue la ville à ce sujet-là?
Il y en avait plusieurs objectifs établis à ce moment-là, de 2014 à 2019, donc c'est une période de 5 ans. Et puis, il y en avait, là, je vais t'en énumérer quelques-uns qui me viennent en tête, là, mais le remplacement, par exemple, des lumières en ville à des lumières qui prennent moins d'énergie, là, des LED. Et puis, il y avait aussi le projet d'énergie à l'aréna qui a vu des problèmes, là, mais quand même, c'était au plan. Et puis, ce qu'on fait là une fois par année, c'est qu'on rapporte sur la période, c'est un peu bizarre, mais on rapporte sur la période de 2 ans passés. Donc aujourd'hui, on est presque à la fin de 2020 et puis on rapporte pour la période de 2018. Donc la consommation d'énergie, et puis quand on parle de consommation d'énergie, on parle d'électricité et puis de gaz naturel. Donc on compare ce qu'on a consommé en 2018 par rapport au plan établi pour la période de 2014 à 2019. Alors là, on est en 2020. Le plan de 2014 à 2019 est issu. Donc, pour l'année 2020 jusqu'à 2024, on doit mettre sur pied un nouveau plan. Donc, on s'attarde à ça, nous, les ressources municipales, pour mettre sur pied un nouveau plan énergétique qui va être revu au Conseil d'ici la fin de l'année.
Donc, si je comprends bien, il y aurait peut-être d'autres initiatives vertes qui pourraient être considérées dans les prochains conseils municipaux?
Absolument.
OK, parfait. Vous avez reçu aussi une brève mise à jour concernant l'ouverture de la piscine et de l'aréna, qui était un sujet qu'on a suivi beaucoup dans les dernières semaines. Comment ça se passe pour l'instant dans ces deux établissements-là?
Donc, ça va bien. Je vais dire bien, là, mais entre parenthèses.
Évidemment.
C'est évidemment. Dans les deux endroits, on voit de l'achalandage réduite. Donc, on a dû réduire notre service. À la piscine, on voit des choses comme juste un nageur par lane. Donc, il y a 6 lanes dans notre piscine et puis c'est un par lane. Au lieu d'en permettre plusieurs où il y aurait peut-être des contacts entre les gens, on voit aussi des précautions au niveau des salles de rechange. Donc, l'utilisation de la piscine est réduite en raison de ces restrictions-là. Un peu la même chose à l'aréna. À l'aréna, on a juste une des deux glaces. Donc, normalement, c'est ainsi, on aurait 2 glaces en marche à l'aréna. On en a encore juste une parce que c'est ce qu'on peut se permettre avec les limites là, sur le, le montant de gens de build dans l'édifice en tout temps. Là. Et puis, on se sert de la glace du sud, ou de l'espace de la glace du sud pour que les gens puissent mettre leurs patins. Donc, les gens ne peuvent pas accéder aux salles de rechange. Donc, un joueur d'hockey doit s'habiller chez lui ou chez elle, et puis arriver à l'aréna tout habillé, à l'exception de son casque, ses gants et puis ses patins. Et puis, à ce moment-là, il va s'asseoir sur une chaise du côté sud, mettre ça dans un environnement éloigné des autres, et puis il attend son tour pour aller jouer, et puis là, les gens embarquent sur la glace. Et puis, la même chose à la sortie, on enlève ces trois pièces d'équipement-là, et puis on s'en va chez nous finir de se déshabiller. Donc, ça crée de la logistique un peu intéressante et des fois difficile, mais les gens s'adaptent bien. On apprend à travers tout ça, donc on découvre des embûches et puis on remonte les défis, puis on essaie d'offrir le service le plus large possible à notre communauté.
Vous avez probablement vu hier le gouvernement Ford qui a dévoilé son plan un peu, son début de plan pour la deuxième vague qui inclut pour l'instant une vague de vaccination contre la grippe massive. Évidemment, vous avez probablement connu la nouvelle en même temps que nous, à moins que peut-être vous ayez de l'information avant. Mais j'en profite quand même pour vous demander qu'est-ce que la ville prévoit faire pour l'instant par rapport à la deuxième vague qui, évidemment, on n'a pas eu de cas beaucoup à Kapuskasing. Je pense qu'on n'en a même pas eu un, mais ça pourrait arriver à tout moment.
Alors, on continue de prendre les mêmes précautions qu'on prend depuis le début de la crise. Au tout début, on avait certains édifices comme le Centre civique, par exemple, qui était fermé complètement au public. Il est réouvert, le Centre civique, et pour l'instant, on envisage le garder ouvert, mais on limite la grosseur des groupes en fonction de la nouvelle du gouvernement Ford. Donc, à l'intérieur, je crois que c'est 10 personnes, et puis à l'extérieur, 25. Donc, quand quelqu'un veut louer une salle, par exemple, on s'assure que ça, c'est respecté, ou si quelqu'un veut organiser un événement dans le parc qui serait un événement à l'extérieur. Donc, encore là, on demande aux gens de respecter les limites sur les groupes. Pour ce qui en est de la campagne de vaccination, on a eu une demande du Porcupine Health Unit de venir faire ça ici au Centre civique, puisqu'on a une belle grande salle. Et puis, on travaille avec eux pour essayer de réaliser ça.
Donc, c'est loin d'être confirmé encore, mais ça pourrait être une possibilité.
C'est ça, oui. Ils nous ont fait la demande, et puis il faut regarder là à l'entrée, la sortie des gens, essayer de séparer ça du trafic normal qui aurait ici au Centre civique, tout en assurant aussi la sécurité de nos employés qui travaillent ici à tous les jours.
Et en terminant, M. Barry, comme j'aime le demander un peu à chaque fois que je parle, soit à vous ou à Dave Plourde, j'aime vous demander, est-ce qu'il y a un sujet ou une nouvelle qui pourrait sortir, que vous avez parlé de l'information dans les prochaines semaines avant votre prochaine rencontre municipale? Ou par exemple, je pense à la journée franco-ontarienne de vendredi, ça pourrait être des événements qui ont peut-être pas été annoncés ou quelque chose du genre. Est-ce que vous avez quelque chose en tête qui vous vient ou pas du tout?
En ce moment, pas vraiment rien là, de nouvelles à venir, sauf que j'en profite pour rappeler aux gens, si vous ne l'avez pas déjà vu sur nos médias sociaux, sur Facebook, d'aller voir là, le lancement de notre logo et puis le début des festivités pour le centième de l'année prochaine. Donc, il y a un comité qui est sur pied, ça fait là, quand même plusieurs mois là pour préparer une célébration de centième. Il y a aussi des sous-comités sur pied pour s'attarder à des parties plus spécifiques des célébrations. Étant donné la COVID, on reste très alerte à tout ça et puis on va prendre une décision à un moment donné, voir si c'est possible, même d'envisager des rassemblements pour 2021, mais on ne s'arrête pas à ça pour l'instant. On prépare comme si on serait en mesure de pouvoir célébrer ensemble. Et si ce n'est pas en personne, ce sera virtuellement d'une façon ou d'une autre, là, mais on veut vraiment célébrer le fait que la ville a 100 ans l'année prochaine, le 8 avril. Et puis, il y a beaucoup d'efforts municipaux, mais aussi, surtout, de la part de nos volontaires. On a des gens qui sont généreux avec leur temps et puis qui nous offrent leur expertise pour nous aider à planifier cet grand événement-là.
Pour les auditeurs qui se demandent, c'est une page Facebook Cap100, il y a un site web aussi Cap100, il y a une chaîne YouTube, une page Instagram, donc plusieurs réseaux sociaux disponibles pour cet événement du centième qui, on s'attend à ce qu'il soit assez important malgré les mesures sanitaires en place. Merci beaucoup M. Barry, c'est tout le temps qu'on avait et en espérant qu'on va se reparler bientôt.
Merci Charles, bonne journée.
Vous écoutez CKAGN, la voix de chez nous au 89.7 et au 94.7.